RFI. Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le club des qualifiés pour la CAN 2019 de football compte ce soir de nouveaux membres. 9 sélections en tout ont leur billet pour le Cameroun. On reviendra sur toutes les rencontres du jour avec Hugo Moissonnier. Vous entendrez aussi Jérémy Morel, le bleu des Baréas à la veille de son probable premier match sous les couleurs malgaches. La fête est finie pour les champions du monde français battus pour la première fois depuis leur campagne de Russie. C'était hier aux Pays-Bas. Retour sur cette déroute avec Antoine Grenier. Retour aussi sur les adieux émouvants de Wayne Rooney à la sélection d'Angleterre. Mondial Sport, c'est du sport au pluriel. On parlera donc aussi de cyclisme avec la présentation du Tour du Rwanda 2019, une édition millésimée, changement de gamme et arrivée d'équipes habituées au Tour de France. Le Tour de France, justement, à la conquête de la Chine. Geraint Thomas, Peter Sagan, Romain Bardet et les autres étaient au départ du Critérium de Shanghai, une opération séduction menée par les organisateurs de la Grande Boucle. Reportage d'Angélique Forger à suivre. À suivre aussi du tennis avec le Masters, le tournoi des maîtres, et du rugby. Les Bleus jouent en ce moment face à l'Argentine. Mondial Sport, c'est parti. Le football en Afrique pour débuter avec vous, Hugo Moissonnier, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Gros week-end de ballon rond sur le continent avec d'abord la suite de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe des éliminatoires de la prochaine CAN. 4 nouvelles équipes ont validé leur billet pour le tournoi ce samedi.
4 pays, dont le Mali, les Aigles, sortis vainqueurs d'un choc à Libreville. Court succès aux dépens du Gabon 1-0 et l'assurance de terminer à l'une des deux premières places de leur groupe. C'est comme ça, je vous rappelle le règlement, qu'on se qualifie pour la CAN. Le héros du jour, c'est Moussa Doumbia, buteur décisif dès la 11e minute de jeu. Pour la plus grande joie, bien sûr, des membres de la communauté malienne qui étaient présents dans les travées du stade de l'Amitié de Libreville. Il permet Moussa Doumbia aux Aigles d'être fidèles à leurs principes, puisque depuis la CAN 2002 organisée, on se souvient, sur leur sol, ils n'ont manqué qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations, c'était celle de 2006. La satisfaction de l'attaquant des Aigles du Mali, Moussa Djenepo.
Je savais que ça allait être un match très difficile. Depuis le début de la préparation, on s'est dit qu'on allait venir chercher la qualification ici.
C'est bon déjà!
Qu'est-ce qui a permis au Mali de faire la différence?
La mentalité, parce qu'on est resté serein, on est resté ensemble, voilà, soudés, et voilà, c'est ce qui a apporté.
Les absents du côté gabonais, ça vous a favorisé?
Je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas la première fois qu'on gagne contre Gabon, donc on ne peut pas dire ça, non.
Et pour répondre à une question que vous me posiez hors antenne, Thomas de Saint-Léger, Moussa Djenepo, il porte les couleurs du Standard de Liège en club.
On ne cache rien à nos auditeurs. Beau week-end donc pour le Mali. Hugo, en revanche, eh bien, les Gabonais se retrouvent, eux, en difficulté.
Privés de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères n'ont de nouveau pas brillé. Les hommes de Daniel Cousin pointent désormais à la 3e place de leur groupe derrière le Burundi. Le Burundi, leur prochain adversaire, ce sera au mois de mars à l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, un déplacement périlleux pour les Gabonais. Ils devront absolument s'imposer pour participer à la prochaine CAN. L'expérience de leur emblématique portier Didier Ovono sera importante. Le gardien de but lucide sur la performance de son équipe ce samedi.
On a offert trop d'occasions aux Maliens et je pense que dans l'avenir, il faudrait éviter qu'on ait autant d'occasions à concéder parce qu'au Burundi, si on a autant d'occasions, ils vont marquer au moins. Aujourd'hui, la pression était de notre côté. On avait besoin de faire un résultat, on n'a pas pu le faire. Comme je disais, mathématiquement, il y a encore une chance et tant qu'il y a une chance, on peut aller se qualifier au Burundi. Et je pense que toute l'équipe est consciente qu'on n'a pas fait un bon match aujourd'hui, mais qu'au Burundi, il faudra donner tout ce qu'on a, plus que ce qu'on a montré aujourd'hui.
Le message de Didier Ovono au micro de Fritz Koum.
Retour aux qualifiés de ce samedi. Avec à présent Hugo, le Nigeria.
Les Super Eagles, de retour, s'ils sont souvent présents en Coupe du Monde, ils avaient raté les deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils retrouveront la compétition pour la première fois depuis leur titre de champion d'Afrique, remporté en 2013. Les hommes de Gernot Rohr, auteurs d'un match nul en Afrique du Sud ce samedi, un partout. Les Nigérians ont ouvert la marque grâce à un but contre son camp du défenseur des Bafana Mkwanazi. C'est l'attaquant de Strasbourg, Lebo Motiba, qui a égalisé. On écoute le sélectionneur du Nigeria qui, après avoir qualifié les Super Eagles pour la dernière Coupe du Monde, réussit à les emmener en Coupe d'Afrique. Gernot Rohr, satisfait de son équipe, et il pense déjà à ce à quoi son printemps pourrait ressembler.
C'est une équipe très très jeune et je pense qu'elle a fait une bonne Coupe du Monde. Ça nous donne un peu de confiance, ça nous donne aussi un peu d'expérience. Dans 7 mois, on en aura encore plus. Même s'il n'y a pas beaucoup de matchs, parce qu'il reste maintenant un match en mars seulement. Donc on va essayer de suivre les joueurs. On a un match amical mardi au Nigeria contre Ouganda. Je pourrais voir des joueurs qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, mais quand on a une équipe jeune comme ça qui est capable de se qualifier dans un groupe difficile, parce que la Libye a aussi une bonne équipe, et les 6 points qu'on a fait contre la Libye étaient vraiment très précieux, et on peut être optimiste pour la CAN.
Guerre notre or avec Noé, Hochet, Baudin. Les Sud-Africains, de leur côté, restent deuxième de leur groupe. Ils affronteront la Libye lors de la prochaine journée. La Libye, une bonne équipe, nous dit Guerre notre or, et qui envoyait un message qu'il faut entendre ce samedi. Un succès 8-1, rien que ça, sur le terrain des Seychelles.
Pas mal. Dans le groupe L, l'Ouganda confirme.
Et oui, de retour en Coupe d'Afrique il y a 2 ans, en 2017, il y a presque 2 ans. Les Cranes seront de nouveau là en 2019. Qualification acquise ce samedi à la faveur d'un succès à domicile face au Cap-Vert. Comme le Mali, l'Ouganda se contente d'une courte mais décisive victoire 1-0.
Et puis le dernier qualifié du jour, c'est le Maroc. Le Maroc qualifié sans jouer ce samedi.
Oui, les Lions de l'Atlas étaient sur les terrains hier. Ils ont signé un succès 2-0 face au Cameroun dans le groupe B. Au passage, c'est le premier de l'histoire du Maroc face aux Lions indomptables. Pas mal pour Hervé Renard. Mais il ne suffisait pas, ce succès, pour être qualifié dès hier. Il fallait un mauvais résultat du Malawi aux Comores aujourd'hui. Et ça tombe bien. Les Sélakantes du Comores ont gagné 2-1. Des Comoriens, franchement, pas rancuniers, puisque le succès du Maroc hier les avait éliminés de la course à la CAN 2019.
Le Bénin, de son côté, pouvait faire un grand pas vers la qualification. En Gambie, c'était aujourd'hui, surprise, surprise, les écureuils repartent de Banjul avec une défaite dans la besace.
Oui, quelle mauvaise opération revers 3-1. Steve Mounier avait pourtant ouvert la marque en première période, mais en fin de partie, la Gambie a renversé la vapeur pour signer, tenez-vous bien, son premier succès en match officiel depuis 5 ans. Résultat, les écureuils et leur sélectionneur Michel Dussuyer devront attendre le mois de mars et leur rencontre face au Togo pour être fixés sur leur sort. On l'écoute, Michel Dussuyer.
On perd ce match à un moment donné où on est bien dans le match, quoi. Je pense qu'on arrivait à maîtriser toute cette équipe gambienne et la qualité de leurs attaquants, même si on perdait quand même pas mal de duels. Et puis on prend un but venu de nulle part, quoi, parce qu'on n'est pas intelligent sur ce coup-là. La frappe, je la vois partir en sortie de but, c'est dévié et ça finit par un but contre notre camp. Ça a changé évidemment l'âme du match. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on était bien dans ce match, ça a changé le sort du match avec des Gambiens qui se sont retrouvés d'un coup galvanisés. Et puis là encore, on pêche, on sait que cette équipe elle est habile en contre-attaque et se dégarnit trop sur ce deuxième but. Je pense qu'il faut dans un premier temps digérer ce résultat-là. On a grillé un joker, mais il nous reste encore un match à jouer à Cotonou et ce sera une finale.
Voilà le sélectionneur Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin, qui évoque donc le match à Cotonou face au Togo. Le Togo qui joue demain, puisque c'est cette 5e journée des éliminatoires de la CAN, elle se poursuit demain, avec à suivre dans le groupe du Bénin et de la Gambie, Togo, Algérie. Les éperviers du Togo peuvent se relancer et dépasser les Béninois en cas de succès. Les Algériens, eux, peuvent tout simplement se qualifier. Puis je vous signale également la victoire 1-0 du Sénégal en Guinée équatoriale aujourd'hui. Le Sénégal qui était déjà qualifié dans une poule où Madagascar avait également validé son billet pour la CAN le mois dernier.
C'est ce qui s'appelle une passe décisive, Hugo, puisqu'on va parler de Madagascar. Les Baréas affrontent donc demain le Soudan du Sud, dans un match sans enjeu, mais auquel pourrait participer un petit nouveau.
Un petit nouveau, mais un joueur d'expérience. Jérémy Morel a rejoint les Baréas, vous le savez, lui dont le père est né à Madagascar, qui est né en Bretagne, hein, Jérémy Morel, mais qui a également des racines réunionnaises. Le défenseur de Lyon, âgé de 34 ans, est un renfort de poids pour les Malgaches en vue de leur première CAN. RFI a rencontré celui qui a également porté les couleurs en club de Lorient, sa ville natale, et de Marseille. Il nous raconte notamment son arrivée au sein des Baréas.
J'ai mon cousin par alliance qui lui est sur Mada depuis 5-6 ans avec ma cousine. Il a vu notamment une des photos justement de l'équipe. Et il a vu des joueurs qu'on connaît de La Réunion, donc il s'est dit, mais si eux ils sont, pourquoi pas toi? Donc du coup, il a réussi à appeler le coach, et en fait ça s'est fait comme ça, parce que moi il savait que je l'aurais pas forcément fait de ma part. C'est lui qui a forcé un peu les choses, mais avec mon accord aussi. Un très bel accueil, on m'avait prévenu que ça allait être chaud, et ça l'a été, donc je suis venu 3-4 fois, mais Tana je connais pas trop, nous on est plus de Diego et on va dire le nord de l'île. Forcément, nous dans la famille, on c'est beaucoup Madagascar et La Réunion, mais c'est vrai que Madagascar a une place assez importante pour nous. Donc voilà, moi aujourd'hui de pouvoir jouer pour ce pays, je suis content et j'espère que l'aventure va être longue.
Quel accueil les Baréas vous ont réservé ?
Dans le foot, peu importe où on va, le foot rassemble. Qu'on soit ici à Madagascar ou en France, finalement, le foot rassemble tellement que les choses diffèrent peu quand même. Après, j'avais la chance de connaître certains joueurs, donc ça m'a facilité quand même les choses.
L'équipe est déjà qualifiée pour la CAN 2019. Pourquoi vous disputez ce match éliminatoire qui n'a pas vraiment d'enjeu puisque Madagascar est déjà qualifié ?
Non, bah moi c'est surtout de pouvoir m'intégrer du mieux possible dans cet effectif-là. Ça reste des matchs importants à jouer, gagner en confiance. Pour toute l'équipe, c'est important de pouvoir enchaîner les résultats, enchaîner les matchs et les bonnes prestations. Donc je suis très très content de comment ça se passe. Je suis aussi là pour apporter ce que je connais, ce que j'ai vécu. Maintenant, c'est d'abord eux qui sont qualifiés à la CAN. Moi, j'étais pas là, c'est eux qui ont fait le travail. Donc moi, aujourd'hui, je suis surtout là pour apporter mon expérience.
Vous avez joué pour deux très grands clubs français, vous avez disputé la Ligue des Champions. Pourquoi c'était important pour vous de disputer une compétition comme la CAN ?
Après, moi, c'est pas hyper important de la jouer. J'ai su, parce que je savais pas jusqu'à présent que c'était possible d'être naturalisé, en tout cas franco-malgache. Maintenant que je le sais, si j'avais su ça avant, on aurait fait le nécessaire avant. Je suis là aussi pour vivre une aventure humaine et aujourd'hui, je me régale simplement à être ici.
Jérémy Morel avec Laure Verneau, interview à lire également sur RFI.fr.
Jérémy Morel, qui pourrait donc faire ses débuts demain contre le Soudan tout court, hein,
pas le Soudan du Sud.
Voilà, on dit des bêtises, on se reprend, c'est bien. Hugo, on parle de cette CAN masculine, de ces éliminatoires, mais on ne l'oublie pas, la CAN féminine débute aujourd'hui au Ghana.
Oui, elle a débuté avec justement le succès du pays hôte en ouverture, le Ghana, qui s'impose 1-0 face à l'Algérie, dans le même groupe. Le Cameroun, finaliste il y a 2 ans sur son sol, a battu le Mali 2-1.
La fête est finie, les étoiles ne brillent plus. 4 mois après leur titre de champion du monde, 8 mois après leur dernière défaite, les Bleus de Didier Deschamps sont tombés hier soir, battus 2-0 à Rotterdam par les Pays-Bas, match de la 5e journée de la Ligue des Nations. Un revers douloureux mais mérité, les Français n'ont jamais, jamais semblé à la hauteur de cette affiche. Antoine Grenier.
On a été punis. Les mots forts du vice-capitaine des Bleus, Blaise Matuidi, ont résonné dans les couloirs du Feyenoordstadion de Rotterdam. Des mots d'après défaite, presque d'après déroute. Un revers 2-0 sur début de Wijnaldum avant la mi-temps et Depay sur penalty en toute fin de rencontre. Les Bleus n'avaient plus perdu par 2 buts d'écart depuis mars 2017 et comme à l'époque face à l'Espagne, c'est la curieuse impression laissée par les Bleus qui restera de ce match face aux Pays-Bas. Le sentiment que les champions du monde n'auraient pas pu faire mieux. Décompression d'après mondial, plaide timidement Didier Deschamps. Les joueurs moins concernés, l'attaquant Olivier Giroud n'y croit pas.
Je pense pas que ce soit une question d'envie, mais je veux dire, à partir du moment où t'es dépassé dans tous les compartiments du jeu, j'avais le sentiment qu'en première mi-temps, quand tu faisais le pressing, on n'était pas coordonné, c'était pas en équipe, il y avait pas ce qu'il faut pour récupérer le ballon, on jouait trop bas. Quand on le récupérait, la première passe n'était pas tranchante et on avait du mal à repartir en contre-attaque. Donc même si on a une ou deux opportunités en première mi-temps, ça ne suffit pas. Là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant, il faut assumer. On était resté sur de très bons résultats ces derniers temps et j'espère que ce soir, ça va nous faire réagir.
Il y aura évidemment une analyse, des explications à trouver. Les absents, bien sûr, des éléments essentiels. Umtiti, Hernandez et surtout Pogba. Nzonzi avait la lourde tâche de suppléer le mancunien et le joueur de l'AS Rome s'est retrouvé fautif sur l'ouverture du score néerlandaise. Mais au-delà du seul milieu de terrain, la déroute a semblé générale de la part des joueurs en premier lieu, mais du sélectionneur également. Un système à 3 milieux de terrain pas adapté à l'adversaire néerlandais, des remplacements peu inspirés, Dembélé brouillon, Dombélé incapable de conserver la balle, ou encore le retour de Moussa Sissoko, dont la première sélection depuis octobre 2017 restera marquée par ce pénalty concédé en fin de rencontre.
Ce soir, on a plein de questions à se poser, parce que je crois que moi, à tous les niveaux, on a pêché, et c'est pas l'équipe de France, donc il va falloir bien se reposer, se refroidir la tête et demain avoir une meilleure analyse sur ce match et essayer de corriger ce qui n'a pas été ce soir. Les Pays-Bas ont très bien joué ce soir, après ils ont surtout dominé dans les duels. normalement ce qui est notre force première, c'est qu'on est solide. Voilà, il y a des jours sans. Ce soir c'était un jour sans. Et voilà, comme je dis, il va falloir trouver le pourquoi du comment et essayer de vite rectifier le tir.
Les Pays-Bas meilleurs, l'aveu est inévitable grâce au coup tactique de Ronald Koeman permettant de neutraliser les attaquants français. Kylian Mbappé en tête, muselé par un De Ligt impérial malgré ses 19 ans, mais aussi grâce aux performances de Steven Bergwijn, l'ailier du PSV, ou de Frankie de Jong, le métronome de l'Ajax, 21 ans tous les deux. Ajoutez à cela un Memphis Depay bien épaulé par le doyen Ryan Babel et le succès néerlandais paraît logique, tout comme le serait une victoire sur l'Allemagne lundi pour offrir à la mécanique orange une phase finale de Ligue des Nations, inespérée il y a encore 6 mois. Antoine Grenier, de retour de Rotterdam, RFI.
Goodbye Rooney, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection d'Angleterre ne portera plus le maillot frappé des Trois Lions. Wayne Rooney qui a honoré vendredi sa 120e et dernière cape internationale à l'occasion d'un match amical face à son pays d'adoption, entre guillemets, là où il joue aujourd'hui en club, les États-Unis. Pour en parler ce soir, notre correspondant en perfide à Lyon, Tom Williams. Bonsoir Tom.
Bonsoir Thomas.
Alors, pour dire au revoir à Wayne Rooney, il fallait trouver un stade à la dimension de sa carrière, en l'occurrence Wembley.
Voilà, oui, la fédération anglaise a décidé de donner un hommage à Rooney pendant un match amical contre les États-Unis jeudi soir. Pour la dernière fois, il a enfilé son maillot numéro 10 et quand il a fait son entrée en jeu en tant que remplaçant pour les 30 dernières minutes, il a aussi pris le brassard de capitaine. Celui qui joue maintenant pour DC United aux États-Unis a été chaleureusement applaudi avant le match et au moment de son entrée. Et même si son dernier match international datait d'il y a 2 ans, il a montré qu'il était toujours en jambes et avec quelques jolies passes, 3 ou 4 transversales précises et quelques occasions qui ont fait lever la foule. Le stade de Wembley a cru le moment arrivé tout en fin de match quand le ballon est arrivé dans le pied de Rooney dans la surface américaine. Mais malheureusement, son tir a été stoppé par le gardien Brad Guzan.
Ça peut paraître curieux, Tom, mais malgré l'accueil reçu par Wayne Rooney, l'idée de faire ce match d'adieu n'a pas plu à tout le monde chez vous.
Oui, effectivement, cet hommage, c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir en Angleterre et la décision de fêter la carrière internationale de Rooney dans cette manière a été critiquée par certains. Peter Shilton, surtout l'ancien gardien d'Angleterre et recordman de sélection, il a dit que les sélections internationales n'étaient pas des cadeaux et qu'offrir cette 120e sélection à Rooney risquait de créer un précédent. Pour certains, même s'il est le recordman en termes de buts pour son pays, Rooney est avant tout le symbole d'une génération soi-disant dorée qui n'était jamais parvenue à faire un tournoi réussi. Malgré ça, il faut souligner qu'il a reçu un accueil très chaleureux de la part des supporters à Wembley et ses coéquipiers n'ont pas tari d'éloges non plus.
Alors, les éloges des coéquipiers, l'hommage du stade, on imagine qu'il y avait de l'émotion, beaucoup d'émotion chez Wayne Rooney.
Oui, d'après les déclarations de Gareth Southgate, l'entraîneur des Trois Lions, il s'apprêtait à recadrer certains de ses joueurs après le match que l'Angleterre a gagné 3-0. Quand Rooney est revenu du terrain pour donner un discours plein d'émotions aux futurs stars de l'équipe nationale, et on dit qu'il a même eu quelques larmes aux yeux. Face aux médias, il a dit que ça avait été une nuit spéciale pour lui et sa famille, et un moment à savourer.
Dernière question, Tom, justement à propos des médias, comment chez vous ont-ils traité ces adieux de Rooney?
Des images de Rooney ont fait les unes de tous les journaux sportifs vendredi matin. On parlait du respect que Wembley a montré à son égard, de sa fierté et aussi de la classe de la soirée, avec le seul regret que Rooney n'a pas réussi à couronner son dernier match avec un 54e but en sélection. Il a aussi reçu plusieurs messages de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux avec « Légende », le mot du jour.
Et le mot du jour, demain, ce sera « Victoire, les Anglais sans Wayne Rooney ». Vous l'avez compris, joueront contre la Croatie pour tenter de prendre la première place de leur groupe de Ligue des Nations. Merci à vous et bonne soirée, Tom Williams. Un autre choc ce week-end, c'était d'ailleurs ce soir, toujours dans cette Ligue des Nations, le match entre l'Italie et le Portugal à Milan, 0-0. Score final, conséquence, les Portugais sont qualifiés pour la finale à 4 de cette Ligue des Nations. Hugo Moissonnier de retour pour parler cyclisme, cette fois avec ce Tour du Rwanda 2019 présenté jeudi.
Une course qui grimpe, pardon pour le jeu de mots, dans la hiérarchie de l'Union Cycliste Internationale. Pour les puristes comme vous, Thomas, le Tour du Rwanda fait désormais partie de la catégorie 2.1. Jusqu'ici, seule la tropicale Emissa Bongo au Gabon était aussi bien cotée en Afrique. Cette promotion, elle a entre autres permis d'attirer des équipes de renom au pays des mille collines et notamment pour la première fois une équipe World Tour, l'équivalent de la première division Astana, formation kazakh, ancienne écurie de Contador ou encore de Lance Armstrong, qui ont été respectés à un moment, il faut le préciser, mais aussi un échelon en dessous des formations françaises comme Direct Energy, Delco Marseille, l'écurie de Joseph Areruya, le Rwandais ancien vainqueur de son tour national. Des équipes continentales pro-africaines sont également présentes et puis il faudra aussi compter sur des équipes nationales, Érythrée, Kenya, Rwanda bien sûr, mais aussi Cameroun. Ce casting, il réjouit l'un des organisateurs de ce tour du Rwanda, Olivier Grandjean.
Pour ce qui est par exemple de l'équipe Direct Energy, elle va venir avec ses meilleurs grimpeurs, justement parce que comme le pays, le Rwanda est un pays très montagneux, dans l'optique de la préparation du Tour de France. Ce qui nous permet d'avoir des coureurs de grande qualité comme Taramae et peut-être Calmejane, on attend des confirmations. Et puis l'équipe Astana, elle va venir avec sa nouvelle recrue, un Érythréen, Merawi Kudus, qui est un habitué des grandes courses européennes, et donc qui lui viendra aussi pour non seulement se préparer aussi pour l'échéance du Tour de France, mais aussi surtout pour essayer de gagner un tour en Afrique.
Le Danois, Fluxeng, Lopez, également le Colombien, seront-ils là?
Honnêtement, je ne pense pas. Après, les programmes des différents coureurs de ces équipes-là seront faits durant le courant du mois de décembre, voire début janvier. On n'a pas d'assurance de coureurs de ce calibre-là, mais enfin, déjà, on a l'assurance de Merawi Kudus et puis surtout de l'équipe en elle-même. Donc, c'est même si c'est pas les leaders, tous les leaders qui sont là, c'est forcément des bons coureurs puisqu'ils font partie de la 6e équipe mondiale.
Alors, le parcours à présent, du classique, ou plutôt place au grand classique, faut marquer le coup, faut marquer ce changement de dimension. Et là, vous sortez ce que le Tour du Rwanda peut offrir de mieux en termes de parcours, si j'ai bien compris.
Oui, bah disons qu'on c'est relativement classique au niveau des villes arrivées, puisque ce sont toutes des villes qu'on a déjà sur lesquelles on est déjà arrivé. Par contre, on a changé un petit peu de certaines choses dans le parcours. On a une étape qui sera très très longue, une étape de 213 km entre Ouyé et Rubavu au bord du lac Kivu. Donc ça sera la première fois que le Tour du Rwanda aura une étape aussi longue. Et puis surtout, on a essayé de dynamiser un petit peu la course pour le dernier week-end avec deux étapes pratiquement intramuros à Kigali. Et deux étapes qui seront très 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 difficiles, avec beaucoup beaucoup de côtes dans les derniers kilomètres.
Pour le reste, on peut décrire un petit peu ce qui fait partie des classiques, le lac Kivu, la traversée nord-sud du pays, le mur de Kigali.
Tout à fait, on aura donc Rubavu, je l'ai déjà dit, on a Karungi, on a une étape entre Rubavu et Karungi, donc une étape qui longe le lac Kivu, donc c'est une étape avec des paysages fantastiques, où donc on surplombe le lac pendant de nombreux kilomètres, on traverse des champs de... on est au milieu des champs de thé, et donc c'est vraiment des images magnifiques. Après, on a une arrivée à Moussandé, où comme chaque année, il y a une foule considérable chaque fois qu'on arrive dans cette ville. Et puis surtout, bah oui, effectivement, le mur de Kigali, qui cette année sera escaladé 3 fois par les coureurs du Tour.
Et ce sera le point d'orgue, la dernière étape, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. La dernière étape, un circuit de 15 km avec 3 passages au mur de Kigali et l'arrivée derrière.
Est-ce que le passage en 2.1 a influé sur les choix que vous avez pu faire pour établir ce parcours, ou bien est-ce que vous êtes resté dans une logique qui était la même les années précédentes?
Disons qu'on a essayé de faire au mieux. Surtout, on veut très bien accueillir les équipes professionnelles, encore mieux que ce qu'on pouvait déjà faire. Et c'est pour ça qu'on a choisi un parcours sur lequel on n'aura aucun transfert. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville, on dort dans la ville et le lendemain l'étape repart de cette même ville. Donc pour les coureurs c'est très appréciable et pour l'organisation aussi.
Olivier Grandjean, l'un des organisateurs du Tour du Rwanda, qui sera à suivre du 24 février au 3 mars prochain. Toutes mes excuses aux fans d'Alberto Contador. Et puis un dernier mot de cyclisme, le Tour de Madagascar, qui devait se tenir le mois prochain, est annulé en raison de l'élection présidentielle sur la Grande Île. C'est ce qu'annonce son promoteur Francis Ducreux. Il invoque la prudence. C'est la première année que cette épreuve n'a pas lieu depuis sa création en 2004.
Merci Hugo. Du vélo en Afrique, vous en avez l'habitude sur RFI. Du vélo en Chine, c'est plus original. Pourtant, Geraint Thomas, Peter Sagan, Romain Bardet et les autres étaient aujourd'hui à Shanghai pour la deuxième édition d'un critérium orchestré par ASO, la société organisatrice entre autres du Tour de France. Objectif, promouvoir la grande boucle dans l'empire du milieu, un pays où le cyclisme professionnel a encore de la route à faire. Le reportage d'Angélique Forger.
Son casque de vélo encore sur la tête et son appareil photo dans les mains, Shen Yifan, 19 ans, guette le passage des coureurs. Il vient de participer à la course amateur, mais pour lui, ce qui compte surtout, c'est de pouvoir approcher les coureurs du Tour.
Oui, je regarde le Tour de France avec mes amis et là je voulais voir des coureurs professionnels en vrai. J'aime tellement cette course.
Pour ameuter les foules, les organisateurs du Critérium ont fait venir des têtes d'affiche. Le dernier vainqueur du Tour, Geraint Thomas, toujours vêtu du maillot jaune, le triple champion du monde, Peter Sagan, et le français, Romain Bardet, pas mécontent de se frotter au public chinois.
Disons que c'est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude en Europe, dans le sens où c'est un public qui demande vraiment à apprendre à connaître le sport cycliste, le cyclisme traditionnel, et qui est vraiment demandeur.
L'objectif pour les organisateurs, plus que d'offrir une course à fort enjeu sportif, c'est d'exporter la marque du Tour de France et susciter aussi l'intérêt d'investisseurs chinois dans un contexte que Yann Le Moener, directeur d'Amaury Sport, estime favorable.
Il semble que les autorités chinoises, la Fédération nationale chinoise, veulent faire de ce sport un des tout premiers sports en Chine. Et donc il y a un grand programme qui va se mettre en place pour détecter, accompagner et faire en sorte que dans les années qui viennent, il puisse y avoir dans un premier temps des coureurs chinois qui participent au Tour de France et pourquoi pas rapidement une équipe chinoise.
Un travail qui va prendre du temps car pour l'instant en Chine, le vélo est surtout perçu comme un moyen de transport. Accoudé aux barrières de sécurité qui quadrillent le parcours, Xu Sheyang, 24 ans, espère bien que cela va changer.
Le cyclisme de compétition, ce n'est pas si connu en Chine. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Ce n'est pas très populaire. Les gens préfèrent jouer au foot, au basket. Ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à ce sport.
Et pour séduire les Chinois, les organisateurs du Critérium ont pensé à tout. La veille du départ, lors de la cérémonie officielle, les coureurs ont revêtu des tenues traditionnelles chinoises. Un coup de communication qui peut s'avérer très efficace. Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du Tour.
Les coureurs se sont présentés d'abord en tenue de vélo, puis après en costume traditionnel. Ils ont fait le lien avec la culture aussi, et c'est plutôt pas mal. C'est cette proximité en fait qu'on cherche pour donner envie aux gens de pratiquer puis d'admirer ces champions.
De quoi faire sourire aussi les coureurs. Peter Sagan portait l'une des plus belles tenues, une robe ample, verte et brodée de dorures.
C'était quelque chose de nouveau, mais c'était sympa. Je pense que la tenue verte était la meilleure.
Et comment vous vous êtes senti dedans?
C'est confortable, ça va. C'est juste pour l'occasion. Disons que je ne la porterai pas dans la vie de tous les jours.
Une tenue prémonitoire pour le dernier maillot vert du Tour de France qui s'est imposé au sprint devant Geraint Thomas. Angélique Forget, Shanghai RFI.
Au sprint aussi, les dernières infos du soir sur la planète sport en rugby. D'abord les tests match du mois d'automne, du mois de novembre. Le 15 de France a enfin gagné. Les Bleus ont battu l'Argentine 28-13. Les féminines, elles, ont réussi l'exploit de battre les championnes du monde en titre, les Néo-Zélandaises 30-27. Les Blacks aux masculins qui ont perdu eux aussi en Irlande 16-9. Succès de l'Afrique du Sud en Écosse 26-20. Enfin, l'Angleterre a dominé le Japon 35-15. Le Japon, vous le savez, organisera la prochaine Coupe du Monde dans un peu moins d'un an maintenant. Le tennis, pas de combat des chefs demain au tournoi des maîtres. Le Masters de Londres, Novak Djokovic s'est bien qualifié en écartant Kevin Anderson 6-2-6-2. Mais Roger Federer est tombé en demi-finale. Le Suisse battu par l'Allemand Alexander Zverev. Djokovic, ce sera donc l'affiche de la finale demain. Ça tombe bien. Demain, on remonte sur le ring pour Mondial Sport deuxième round. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à la fille du printemps, Hélène Avril, à la réalisation. Bonne soirée à l'écoute de RFI. Bye bye.